psaumes des psaumes, le psaume des pauvres.
Oui, mais tu veux pas faire la présentation?
Non!
Allez!
Si,
faut la présentation des conférences.
Alors ce soir, nous sommes très heureux d'accueillir le père Maxime, que certains d'entre vous connaissent déjà, mais pas tous. Mon père, donc, vous êtes aumônier d'Étala. Vous êtes vous-même architala. Et vous êtes... reconnu pour vos travaux en histoire de l'art, particulièrement sur la dimension théologique de l'histoire de l'art. Et ce soir, comme cela n'a rien à voir, nous vous demandons, vous avez accepté de venir nous parler du psaume des psaumes, et non pas le psaume des paumés qui aurait été écrit s'il manquait un S. Nous vous remercions beaucoup.
Je venais de faire la blague parce que j'ai une petite sueur froide. Je me suis dit, si j'ai oublié un S quelque part, qu'est-ce que ça donne? Ça pourrait donner le paumé des psaumes ou le psaume des paumés. Nous avons le psaume 21. Donc, je suis traditionnellement, l'aumônier ouvre un peu le cycle de conférences. Donc, vous savez désormais qu'il est sur précisément les psaumes. Je dis quelques petits mots sur les psaumes parce que c'est pas forcément quelque chose. À la fois, on les connaît bien parce que vous les chantez tous les matins dans l'eau, pour la plupart d'entre vous. Enfin, en tout cas, tous ceux qui sont vraiment des talents, dignes de ce nom, qui ne se sont pas psaumés en route. Mais voilà, donc rapidement quand même, c'est un recueil de prières qu'on va appeler en hébreu le Sefer Tehillim, avec un pluriel qui est bizarre parce qu'en fait une prière c'est Tehila au féminin, donc ça devrait être un Sefer Tehillot, mais je ne sais pas pourquoi c'est Tehillim. En fait, je crois d'ailleurs que personne ne sait trop pourquoi. Et donc ça renvoie à la prière d'abord, mais une des choses qui est certaine, c'est qu'en fait on ne sait pas si bien que ça comment le recueil des psaumes se constitue. En gros, on sait qu'aux alentours du 3e siècle avant Jésus-Christ, le recueil des psaumes est constitué. Mais on ne sait pas très bien à quoi il servait. On ne sait pas très bien pour quel usage les psaumes étaient utilisés. Il y avait certainement des usages liturgiques, en tout cas pour une partie d'entre eux, qui sont en gros les psaumes entre le psaume 121 et le psaume 132, 133. C'est ce qu'on appelle les 15 psaumes des montées, les psaumes des degrés aussi, c'était les psaumes qu'on chantait en montant pendant les pèlerinages à Jérusalem. Donc toute une série de psaumes, dont « Qu'il est bon, qu'il est doux pour les frères de vivre ensemble et d'être heureux, etc. » et d'être unis, pardon, ou encore « Mon âme est en moi comme un enfant contre sa mère, etc. » Donc toute une série de psaumes assez courts, qui étaient des psaumes qu'on chantait en entrant dans les portes de Jérusalem, puisque les portes étaient des bâtiments entiers, je rappelle, les grandes portes en tenaille. Voilà, donc cela, on a une vague idée de ce à quoi il servait. Pour beaucoup d'autres, on ne sait pas très bien. En revanche, on sait que assez vite, dans l'usage synagogal, on va avoir à la fois une lecture du Pentateuque, une lecture des prophètes, et puis, dans certains cas, il pouvait y avoir aussi la lecture des psaumes. Donc voilà, un livre qui est constitué déjà à ce moment-là. On sait évidemment que le Christ les a priés. C'est un petit peu d'ailleurs de ça que je vais vous parler notamment, parce que le psaume des psaumes, il est pour nous le psaume des psaumes, mais je ne suis pas sûr qu'un juif dirait ça. Le psaume 21, donc il commence par « Eli, Eli, lama azaftani », en hébreu et pas lama sabachthani, sabachthani c'est en araméen. Mais donc on verra ce psaume particulier. Mais les psaumes vont avoir une importance très grande, en tout cas dans l'écriture du Nouveau Testament. C'est le livre le plus cité dans l'ensemble du Nouveau Testament et dans les évangiles, avec très souvent donc, une interprétation des psaumes dans un sens christologique pour attester à la fois l'annonce du Christ et, par exemple, sa résurrection. Par exemple, si vous ouvrez les Actes des Apôtres, vous avez à deux reprises vous avez un discours de Pierre, puis un discours de Paul, qui vont utiliser le psaume 16, le psaume qui dit « Ton serviteur n'a pas connu la corruption ». Et ce psaume va servir d'argument christologique pour dire « Eh bien, ce psaume a été écrit par David, mais David, lui, a connu la corruption, on sait tous très bien où est son tombeau. » Donc le seul dont ce psaume parle en vérité, c'est celui qui n'a effectivement pas connu la corruption et qui était donc annoncé de manière prophétique par ce livre liturgique. Donc, voilà, donc vous le savez aussi, c'est un recueil qui compte donc 150 psaumes, 151 dans la Septante, mais je crois que le 151e n'est pas tellement retenu de toute façon dans la liturgie. C'est intéressant de se dire, on verra un petit peu aussi saint Augustin, très très brièvement, mais on verra qu'évidemment saint Augustin a médité ce psaume 21-22, 21 selon la liturgie, 22 selon la numérotation hébraïque. Augustin, ce qui est très intéressant, c'est qu'il médite les psaumes à partir d'une version qui est traduite de la Septante, qui est elle-même une très mauvaise traduction du texte massorétique. Et Augustin va tirer des choses absolument extraordinaires d'une très mauvaise traduction de traduction, hein, puisque saint Augustin parle beaucoup, a beaucoup accès à la Bible à travers ce qu'on appelait donc la Vetus Latina, c'est-à-dire une Bible traduite en latin à partir du grec. Et Augustin n'était pas lui-même un excellent helléniste, à la différence de beaucoup de Thalas. Et donc il avait un petit peu, il s'est échangé des lettres avec Jérôme, et Jérôme qui était un peu le tenant de la Veritas Hebraica. Enfin voilà, ils avaient des petits échanges parfois un petit peu musclés. Bon, mais je reviens au psaume. Très important donc dans l'interprétation christologique. Et pourquoi ? Ben aussi parce que les psaumes disent « je ». Les psaumes nous donnent de parler ensemble, en première personne, à partir de la parole de Dieu. Et quand nous disons « je » avec les psaumes, nous disons « je » aussi avec celui qui a cité les psaumes, qui a dit les psaumes dans sa vie, c'est-à-dire le Christ lui-même. Et donc, je pense que c'est aussi très important, c'est un livre absolument singulier, parce qu'il nous introduit en fait à cette intériorité du Christ, puisque le Christ, eh bien, nous dirons les pères de l'Église, avait été d'abord répandu dans les Écritures avant de se laisser abréger dans la chair. Le verbum abréviatum incarné, celui qui s'est laissé condenser dans la chair, qui vient rassembler tout ce qui était épars dans l'Ancien Testament. Et donc, au fond, tous les versets des psaumes vont toujours pouvoir être attribués au Christ, et dans sa passion, vous savez que quand on partage les vêtements du Christ dans l'évangile de Jean, eh bien, on va faire référence au psaume, je ne sais plus lequel d'ailleurs, mais qui dit « ils tirent au sort mes vêtements ». Je crois. Ben si, c'est le psaume 21, justement. C'est le psaume 21, sauf qu'il n'est pas cité dans l'évangile que moi je vais vous montrer, parce que je me tiens surtout à Marc et Matthieu, qui est... Puisque le moment par excellence où le Christ cite explicitement les psaumes, parce que quand on dit « il tire au sort mes vêtements », c'est quelque chose que Jean va appliquer au Christ dans une interprétation parce qu'on a partagé les vêtements du Christ. Mais il y a un verset qui va être assumé par le Christ dans sa prière, pourrait-on dire, son ultime prière sur la croix, c'est évidemment le « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Voilà, et c'est peut-être ça qui fait du psaume 21 ce psaume des psaumes, dans lequel nous allons maintenant plonger. Ce qu'on va faire, c'est assez simplement une lecture du psaume. Je vais vous le lire à voix haute, simplement pour qu'on l'ait tous un petit peu en tête. Donc, dans une traduction d'un de mes amis, il faut toujours citer ses sources pour hâter la venue du Messie. C'est ce que disent les Juifs. Je crois que c'est vrai. Je vais citer mes sources. Je vous le dis aussi parce qu'en tant qu'universitaire, parfois, c'est un bon petit rappel. Citer ses sources. Donc c'est un de mes amis, donc Stanislas Delcamp, prêtre du diocèse de Rouen, qui a fait sa licence canonique sur le psaume 21-22, ce qui m'avait donné envie de vous en parler, parce que en l'écoutant, j'avais été assez émerveillé. Et donc je m'appuierai sur sa traduction, et notamment sur toute sa structuration du psaume, pour vous introduire à cette lecture. Donc vraiment, je me fais un peu passeur de quelque chose que quelqu'un a beaucoup travaillé. Et dans un second temps, je vous montrerai aussi brièvement comment ce psaume peut être reçu, comment est-ce qu'on peut l'interpréter, comment est-ce qu'on peut comprendre le fait que les évangiles donc de Marc et Matthieu mettent tous les deux cette parole directe du psaume dans la bouche du Christ, hein, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce que Jean ne fait pas, pour Jean, Jésus dit simplement « J'ai soif à un moment » et donc on va lui approcher de lui donc l'éponge vinaigrée, hein, et dans un autre des psaumes, donc qui n'est pas « Ils m'ont donné à boire du vinaigre », hein, qui va être une autre référence, et chez Saint-Luc, la dernière parole du Christ, « Entre tes mains, je remets mon esprit », hein, est évidemment une parole d'un autre psaume, le psaume 31, que nous chantons aussi assez souvent donc au compli du mercredi. Voilà, donc c'est pour ça qu'on ne les prend pas avec vous. Oui, parce que jeudi, c'est « Tu as ouvert un passage ». Non, c'est pas ça. Non, enfin, comment ? Mercredi, c'est « Tu as ouvert un passage ».
Ah, c'est samedi.
Non, non, en tes mains, je remets mon esprit, c'est... Il me semble... C'est le mercredi, je suis sûr. C'est le mercredi parce qu'après, il y a le De Profundis. Bon, enfin, bon, peu importe, tout ça n'est pas très grave. Une partie d'explication du psaume, et puis une partie, un petit peu, pour essayer de comprendre cette parole et pourquoi, au fond, elle est dans la bouche du Christ dans les évangiles. Ça va ? Alors, on y va. Bon, l'idée, c'était un peu de vous introduire au cycle des psaumes par un psaume, et d'oser aussi le vivre dans sa matière la plus... Alors, c'est pas très gros, mais je vous rassure, après, j'ai essayé de grossir un peu le texte. Ceux du fond, vous arrivez à voir quelque chose ? Vous avez pris vos visuels ? Bon, alors, je vous le lis. Alors, c'est dans une traduction très mot à mot, mais qui va nous aider un petit peu. Alors, sachant d'abord que ça commence par un titre, hein, « Au maître de chant sur la biche de l'aurore, chant de David ». Alors, les titres des psaumes, hein, qui occupent souvent le premier verset, ça, je vous le dis aussi, ils ne sont pas nécessairement, en tout cas du point de vue de l'Église, on n'a pas besoin de les tenir pour inspirer. Il y a eu des tas de discussions là-dessus. En fait, il y a des titres de psaumes en hébreu, mais seul un certain nombre des psaumes ont un titre, pour le moins cryptique en général. Il y en a un petit peu plus dans la Septante, et qui sont aussi attribués à David. Et puis, on va avoir aussi d'autres titres différents. Jean Bézaï qui a fait sa thèse sur les titres des psaumes dans la version syriaque. C'est toujours très péchu, les thèses. Donc du coup, bon, au maître du chant, sur la biche de l'aurore, c'est probablement qu'il y avait un air qui était la biche de l'aurore, et donc on chantait ça sur l'air de la biche de l'aurore. Voyez, c'est aussi très particulier, parce que là, on va l'étudier comme texte, alors qu'un psaume est souvent quand même quelque chose qui est chanté, ou qui était au moins partiellement chanté. Hein. Vous verrez qu'on sait à peu près que dans l'Ena Ratio numéro 2 sur le psaume 21, dont je vous donnerai une citation tout à l'heure d'Augustin, on sait qu'à travers son homélie, en gros, on comprend que le psaume a été lu, mais qu'ils ont chanté les versets 28-29, donc c'est-à-dire « Tous les confins de la terre se souviendront du Seigneur et se prosterneront, et les familles des nations se prosterneront devant ta face ». Eh bien, d'ailleurs, je vais plutôt vous lire dans la version liturgique, parce que là on va s'embêter. Enfin, en gros, on va rester quand même sur ce... Et donc on sait qu'il y avait des parties lues, qui étaient lues comme des parties lues, et des parties qui pouvaient être chantées comme des réponses. Mais vous voyez, on est sur un texte qui est assez ambivalent, c'est-à-dire qu'à la fois, on va l'utiliser de manière textuelle pour parler du Christ, moi je vous en parlais de manière assez théologique, mais au fond, c'est intéressant de pouvoir aussi entendre le psaume dans sa musicalité. Vous savez que quand vous êtes en carême, par exemple, vous pouvez écouter les psaumes de... Alors je vais me tromper sur la manière dont on prononce, c'est Roland de Lassu, je ne sais pas si on prononce le S à la fin, mais en tout cas, il a mis en musique les 7 psaumes pénitentiels. C'est absolument somptueux. Vous voyez, il y a aussi toute cette musicalité du psaume. Mais donc, je vous le lis dans la version liturgique, parce que ça sera quand même plus digeste. Et ensuite, on viendra à la version, traduite mot à mot. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Le salut est loin de moi, loin des mots que je rugis. Mon Dieu, j'appelle tout le jour et tu ne réponds pas, même la nuit, je n'ai pas de repos. Toi, pourtant, tu es saint. Toi qui habites les hymnes d'Israël. C'est en toi que nos pères espéraient, ils espéraient et tu les délivrais. Quand ils criaient vers toi, ils échappaient, en toi ils espéraient et n'étaient pas déçus. Et moi je suis un ver, pas un homme, raillé par les gens, rejeté par le peuple. Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve puisqu'il est son ami. C'est toi qui m'as tiré du ventre de ma mère, qui m'as mis en sûreté entre ses bras. À toi je fus confié dès ma naissance, dès le ventre de ma mère, tu es mon Dieu. Ne sois pas loin, l'angoisse est proche, je n'ai personne pour m'aider. Des fauves nombreux me cernent, des taureaux de Bashan m'encerclent, des lions qui déchirent et rugissent ouvrent leur gueule contre moi. Je suis comme l'eau qui se répand, tous mes membres se disloquent, mon cœur est comme la cire, il fond au milieu de mes entrailles. Ma vigueur a séché comme l'argile, ma langue colle à mon palais. Tu me mènes à la poussière de la mort. Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure, ils me percent les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Ces gens me voient, ils me regardent, ils partagent entre mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Préserve ma vie de l'épée, arrache-moi aux griffes du chien. Sauve-moi de la gueule du lion et de la corne des buffles. Tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur, glorifiez-le, vous tous, descendants de Jacob. Vous tous, redoutez-le, descendants d'Israël. Car il n'a pas rejeté, il n'a pas réprouvé le malheureux dans sa misère. Il ne s'est pas voilé la face devant lui, mais il entend sa plainte. Tu seras ma louange dans la grande assemblée. Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. À vous toujours la vie et la joie. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nations se prosternera devant lui. Oui, au Seigneur, la royauté, le pouvoir sur les nations. Tous ceux qui festoyaient s'inclinent. Promis à la mort, ils plient en sa présence. Et moi, je vis pour lui. Ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Puisque nous rajoutons donc presque toujours la doxologie. Alors, donc comme vous avez pu l'entendre, ce n'est pas un psaume marrant. Ça intègre, donc il y a plusieurs genres littéraires au sein du livre des psaumes. Hein, il y a le Tehillah qu'on va appeler plus spécifiquement des prières. On va avoir ce qu'on va appeler des louanges et on va avoir aussi des lamentations. Ce que ce psaume a de très particulier, qui évidemment a beaucoup fait réfléchir ceux qui ont médité l'évangile ensuite, c'est que comme vous le voyez, c'est une lamentation qui se renverse en louange. Et qui se renverse d'une manière extrêmement abrupte. Alors je vous ai mis un peu, si on veut partager le psaume en deux parties, donc avec ce renversement de la louange, hein, cette espèce de cri de l'homme qui pose une question à Dieu, hein, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et puis ce moment de la réponse, tu m'as répondu, et ensuite que je fasse connaître et je proclame ton nom devant mes frères, etc., dans la liturgie. Donc ce renversement dans une louange immense et la solitude, comme vous avez pu l'entendre, de celui qui crie, tout d'un coup, devient celui qui convoque toute une assemblée. Vous voyez, un renversement radical et un renversement qui advient, alors d'une manière qui peut un peu nous surprendre ici, parce que vous voyez que le verset 22, en fait, dit en continu, « Sauve-moi de la gueule du lion et de la corne des bisons, tu m'as répondu. » Alors, évidemment, on pourrait dire, mais les numéros des versets, ça intervient un peu tardivement dans l'histoire de la Bible. Hein. Pour l'Ancien Testament, c'est à peu près avec les massorètes qu'on numérote les versets. Et puis, il y a un autre savant juif qui, en gros, vers le 15e siècle, essaie de systématiser un petit peu cette numérotation des versets, qui sera reprise telle qu'elle, avec quelques très rares variations par les chrétiens. Et ensuite, c'est aussi au 15e ou 16e siècle qu'on fait la numérotation des versets pour le Nouveau Testament. Mais donc, les massorètes, c'était pas trop des imbéciles quand même. C'était des gens qui passaient leur temps à méditer le texte biblique. Donc comment ça se fait qu'ils n'ont pas arrêté le verset ici pour faire un verset 23 qui commence à « Tu m'as répondu ». Ben, c'est ce qu'on va voir un petit peu, parce qu'en fait, on peut partager le psaume de manière un peu différente et ne pas simplement le considérer comme un psaume avec d'un côté donc une longue lamentation et puis de l'autre une louange. Et ça, c'est un petit peu pour nous apprendre à lire les psaumes. Les psaumes, c'est effectivement des poésies, alors des poésies hébraïques qui ne fonctionnent pas, pas selon notre manière de penser de jeunes français, puisque la poésie, c'est très national, hein, c'est même pas tellement même pas tellement européen, c'est en fait chaque nation a son type de poésie. En tout cas, ça ne correspond évidemment pas à notre métrique. Et donc, si on veut entrer dans le psaume, il faut essayer d'en comprendre les parties, et c'est ce qu'on va faire maintenant. On va essayer de traverser un petit peu le psaume partie par partie pour en voir un petit peu les le sens à chaque fois. Voilà, et le but, c'est que vous sortiez au moins avec la connaissance d'un psaume un petit peu plus en détail. Il est 9h15, j'ai jusqu'à quelle heure en gros ?
9h50,
ok, très bien. Faut pas que je chauffe, mais on va y arriver. Alors, donc là, je suis obligé de vous montrer, je vous le montre tranche par tranche, et vous allez voir qu'en fait, le psaume, on va finalement le diviser en trois parties. Hein, la fin de la deuxième partie, hein, s'achevant précisément, comme les massorettes le veulent, par « tu m'as répondu » dans la ligne même, hein, de la partie précédente. Donc, qu'est-ce qui va servir à dégager des parties quand on lit un psaume, hein, et de manière biblique en général ? Ça va, vous y voyez un petit peu, du coup, là, c'est...
Oui.
Voilà, c'est, vous verrez qu'à la fin, il y aura tout en un seul truc, et là, vous, peut-être que ce sera un peu dur pour ceux du fond. La Bible, elle fonctionne beaucoup avec une figure rhétorique qu'on appelle l'inclusion. Hein, l'inclusion, c'est quoi ? C'est très simple, c'est qu'on va avoir des termes qui vont encadrer un passage et qui vont permettre, en fait, de le délimiter. Donc ici, hein, c'est ce début, hein, où on commence, donc « Eli, Eli », hein, donc « Mon Dieu, mon Dieu »,« Lama azaftani » en hébreu, enfin « Lama sabachthani » en araméen, « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc cette partie très célèbre, dont je vous ai mis un tout petit peu les traductions, parce que le « pourquoi », l'Emma, on ne sait pas très bien comment l'interpréter, ça peut vous dire « pourquoi » au sens causal, « pourquoi m'as-tu fait ça ?» ou « vers quoi ?» et d'ailleurs c'est comme ça que c'est traduit dans la Septante, à « inati ut quid »,« vers où m'abandonnes-tu » en fait, hein, si vous voulez, « vers où me livres-tu, me laisses-tu aller ?» Donc on n'est pas simplement dans une recherche d'une cause, mais on est déjà dans un mouvement où celui qui dit « vers où m'as-tu abandonné ?» ben à la fois se sent abandonné, et le abandonné est pourtant dans un mouvement, là je vous dis les choses un petit peu d'emblée, où il est en train de se confier. Et se confier, vous voyez que c'est le vocabulaire principal donc, de cette partie, donc délimité par ces deux « mon Dieu hein. ». Vous verrez qu'après, il ne dit pas « mon Dieu hein. », il y a des moments où il dira simplement « le Seigneur » en utilisant le tétragramme. Et donc cette première partie... Elle est aussi voilà, elle se structure hein, en deux parties internes. Donc grande partie complète de lamentation, comme vous pouvez le voir, et où on a une césure centrale, hein, où on va passer de mon Dieu, d'une adresse à Dieu, donc un jeu qui s'adresse à un tu, à au regard sur soi, mais moi, voilà ce que je suis. Hein. Et puis, on va avoir un retour quand même sur Dieu à la fin, mais qui est toujours pour parler de soi-même, de ce qui advient au psalmiste. Et dans la première partie, on va voir qu'il y a toute une dimension de l'histoire d'Israël. Dans la deuxième partie, il va s'appliquer les choses à lui-même. Donc, première partie, donc ces phrases absolument bouleversantes, quoi, parce que, voilà, c'est... loin de mon salut, hein, les paroles de mon rugissement. Mon Dieu, je crie durant le jour, mais tu ne réponds pas, et durant la nuit, mais pas de repos pour moi. Donc ce premier segment de texte, c'est un texte segment qui dit donc, l'abandon absolu de celui qui continue quand même de s'adresser à un tu. Alors là, vous pouvez avoir en tête hein, que c'est la dernière parole du Christ, donc c'est la dernière parole du Fils au Père dans l'Évangile. Et c'est la parole de l'isolement absolu du Christ sur la croix qui sera interprétée comme telle, évidemment, par les évangiles. Et donc on a un contraste qui va être fait avec à chaque fois cette partie centrale hein, qui va nous renvoyer donc à la fois aux hymnes d'Israël et se recommander au Seigneur. Se recommander au Seigneur, c'est le mouvement même de la prière. Donc ce qui est très intéressant, c'est que dans ce psaume, on intègre la mémoire en fait, des psaumes. Donc dans le psaume, au moment même... où quelqu'un est en train de faire une prière qui est de l'ordre du psaume, il rappelle l'enchaînement des psaumes, de qui se vivait. Toi, tu es saint, donc toi, tu es par excellence dans le, dans, pour un juif, la sainteté, c'est, elle est associée à la vie de Dieu, il est le vivant. Toi, tu habites les hymnes d'Israël. Et que disent les hymnes d'Israël? Alors ça, vous avez ça dans toute une série de psaumes historiques. C'est-à-dire que c'est un psaume où on sent qu'il y a une mémoire d'autres psaumes. Il y a des psaumes historiques qui disent, voilà, nos pères avaient péché, mais toi, tu venais les sauver. Ils péchaient encore contre toi, mais toi, tu patientais. Toute une série de psaumes où on fait mémoire de l'histoire d'Israël. Les psaumes 77, 78, 105, 106, etc. Et donc là, on va rentrer dans cette dynamique très biblique qu'on appelle la dynamique du mémorial. C'est-à-dire, on repart vers le passé, on se rappelle les merveilles de Dieu, normalement, en vue de pouvoir espérer davantage. La dynamique du mémorial, c'est au fond la dynamique aussi pleinement eucharistique, même si l'Eucharistie est le mémorial par excellence. On fait mémoire des merveilles passées de Dieu pour se dire que même dans l'épreuve, il va renouveler ses merveilles. D'ailleurs, c'est une des paroles d'un des psaumes, « Recommence tes merveilles ». Et donc là, il va évoquer précisément cette dynamique du mémorial, mais il va le faire cette fois-ci pour dire qu'on est dans l'impasse. C'est comme si l'anamnèse, le retour en arrière, restait bloqué dans la descente de celui qui est en train de descendre dans la mort. Et donc c'est là qu'on va avoir cet enchaînement de verbes qui va dire « C'est à toi que se confiaient nos pères, ils se confiaient et tu les libérais, vers toi ils criaient et ils échappaient, c'est à toi qu'ils se confiaient et ils n'avaient pas honte. » Donc un ensemble là de paroles qui nous place au fond dans toute cette première partie, dans une sorte de mémoire de l'histoire qui bute sur le fait qu'il y a comme une sorte de fermeture de la merveille pour celui qui est en regard de Dieu, mais qui est totalement encerclé, enfin, dans une situation de détresse profonde. De qui peut-il s'agir, d'ailleurs? Qui peut être ce « je » qui est en train de parler dans le psaume? C'est toujours très difficile à dire, qui est le « je » dans les psaumes. J'ai un autre ami prêtre qui a fait sa thèse sur le jeu dans le psaume, mais qui apparemment n'était pas libre pour venir nous parler. Mais en l'occurrence, ce qu'on peut se dire raisonnablement, c'est que pour qu'on fasse mémoire de quelqu'un qui est là un petit peu au nom de la mémoire des pères, qui s'adresse à Dieu, dont on garde une mémoire, c'est que probablement il s'agit de quelqu'un qui est de l'ordre, en tout cas de la condition royale. C'est-à-dire le roi qui, de manière privilégiée, est fait pour être l'intermédiaire entre le peuple et Dieu. Donc là, il n'est pas nommé, mais on peut se dire qu'il y a peut-être quelqu'un de l'ordre d'un roi. Alors est-ce que c'est Paul Beauchamp, dans son exégèse du psaume, qui s'interroge, il se dit, est-ce que c'est Ézéchias, est-ce que c'est Sédécias, toute une série de psaumes de rois de l'Ancien Testament. En réalité, on ne peut pas tellement conclure, parce que ces rois-là, vivent une condition où il n'y aura pas de libération, soit au contraire sont libérés beaucoup plus rapidement, alors que là on va voir qu'on va vraiment descendre dans la mort à travers tout ce psaume. Donc une mémoire qui est bloquée, et donc vous voyez ici qu'on va opposer les pères et le passé, la libération qui était opérée, et puis le présent de celui qui parle, mémoire. Il dit même pas je suis, d'ailleurs là je vous le supplée parce qu'il faut qu'on comprenne la phrase, et moi, un ver et non un homme, objet d'insulte de l'humanité, méprisé par le peuple. Donc très intéressant aussi, parce qu'on va avoir continuellement donc Israël, les pères, le peuple. Un psaume fonctionne beaucoup par des formes de variations infimes. Donc on va avoir ces espèces de grandes structures avec des inclusions, et ensuite, en interne, on va jouer sur un certain nombre de variations pour faire avancer le propos, et vous pouvez garder ça en tête, parce qu'on retrouvera dans la dernière partie cette question du peuple d'Israël et cette question du peuple tout court. Et vous verrez qu'il y a finalement même un rapport avec le temps de Noël où nous sommes et avec la question de la naissance qui est déjà évoquée dans cette première partie. Donc lui, il est celui dont tout le monde se moque. Donc il est celui, on est vraiment, qui est isolé. Donc là, on était dans un rapport du « je » au « tu » de Dieu, puis du « je » au « il » des ancêtres. Et cette fois-ci, tous ceux qui me voient, donc là c'est le présent et c'est les ennemis, et donc c'est l'isolement radical de celui qui parle au milieu de ses ennemis. Ils ouvrent grand leur bouche et hochent la tête, et là on a ce « recommande-toi au Seigneur » qui peut renvoyer donc à ce « toi tu es saint, tu habites les hymnes d'Israël », mais qui est dans la dérision qu'il le libère, qu'il le délivre, puisqu'il s'est pris d'affection pour lui. Je vous rappelle, on le verra tout à l'heure, mais quand Jésus est en croix dans l'évangile de Matthieu, c'est exactement ce que disent les gens. C'est-à-dire que l'évangéliste, il va écrire cette scène de la résurrection, de la crucifixion, avec en tête ce psaume. C'est le psaume qui, par excellence, va être le déchiffrement de l'instant de la croix. Le « qu'il le libère hein, »,« tu les libérais, ils échappaient », devient une sorte de dérision, une prière de dérision. « Toi, tu habites les hymnes d'Israël ». Et cette fois-ci, on a une sorte de prière ironique, hein, le « recommande-toi au Seigneur », qui vient être en fait une anti-prière qui est dans la bouche de ceux qui entourent celui qui est en train de descendre dans la mort. Et c'est là que, comme souvent dans les psaumes, on va rejoindre de nouveau un point de mémoire. Hein, donc de la même manière que là, on partait d'un présent pour rejoindre une mémoire, ici on est de nouveau donc, dans le présent hein, du fait qu'il est pleinement assailli par ceux qui l'entourent, pour revenir à une mémoire créatrice. Ce que Paul Beauchamp va appeler, donc un des grands livres à lire sur les psaumes, hein, si vous voulez accompagner le cycle qu'on va vivre, hein, c'est Psaume Nuit et Jour de Paul Beauchamp. Et par exemple, le psaume 138, on va venir à ce que Paul Beauchamp appelle le point de création. C'est-à-dire un moment où, en fait, dans la déréliction ou dans ce qui peut être inquiétant ou difficile, on revient au point, au fond, où la bonté de Dieu s'est exprimée de manière maximale. Et quand est-ce qu'elle s'est exprimée? Dans la dimension de la naissance. On avait les pères hein, qui se confiaient à Dieu. Et en fait, ici, on va avoir dans l'autre partie du psaume, la mère. Et tu m'as extrait du ventre maternel, donc c'est toi qui m'as extrait. Tu me confiais au sein de ma mère. Sur toi, j'ai été jeté depuis les entrailles. Depuis le ventre de ma mère, mon Dieu, c'est toi. Et donc là, vous voyez qu'on est passé de « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» de cette solitude extrême, à en fait une autre manière du rapport à Dieu, un rapport à Dieu beaucoup plus originel, mais qui dit au fond, dans les termes mêmes de la naissance, pas d'autre Dieu que toi. Dès le ventre de ma mère, Eliata, tu es mon Dieu. Alors, entre parenthèses, certains se demandent si quand on se moque de Jésus, parce qu'on dit, regardez, il appelle Élie, ça ne veut pas dire qu'en fait, Jésus n'a pas prononcé le psaume, prié le psaume à voix basse, hein, puisque quand il lit ici, là, il dit Élie, Élie, lama zaftani. Donc là, on se dit, on voit pas très bien en quoi on peut se dire que, si c'était ça, les gens, ils auraient dû reconnaître le psaume. Ou alors, mais ça peut vouloir dire ici, Élie Atta, ça peut vouloir dire mon Dieu, Atta, c'est toi, hein, toi, mon Dieu. Mais ils ont peut-être pu comprendre Elia et puis l'impératif ta, c'est-à-dire Élie, viens, s'il te plaît. Voilà. Élie, viens. Et donc peut-être, donc ça c'est les exégètes qui se battent un petit peu, mais qui disent, en fait la prière était rarement une prière simplement silencieuse, mais encore aujourd'hui, quand on voit un juif prier, que ce soit au mur occidental à Jérusalem ou dans certaines synagogues, il va y avoir cette espèce de mouvement de la prière et une récitation des psaumes qui n'est pas une récitation à voix basse. Et donc... en tout cas, on passe, vous voyez, de cet isolement radical du « Mon Dieu, tu m'as abandonné » à « Mon Dieu, c'est toi, pas d'autre Dieu que toi » et cette dimension extrêmement tendre, pour le coup, parce que c'est « Sur toi, j'ai été jeté depuis les entrailles, depuis le ventre de ma mère. Hein, » c'est-à-dire « Toi, tu me confiais au sein de ma mère, hein, mais sur toi, j'ai été jeté. » Donc en fait, cette dimension de confiance, de repos sur Dieu, de celui qui avait confiance en lui. Donc, si vous voulez, dans cette première partie, hein, on est dans une sorte de mémoire qui conduit à l'impasse, mais où en même temps, ce qui est le plus central, en fait, c'est la relation du psalmiste à Dieu, qui englobe en fait toute cette première partie. La partie suivante du psaume, vous voyez, elle se joue sur ce qu'on appelle aussi, donc en rhétorique biblique, une accroche. Hein, c'est vraiment très très simple, c'est-à-dire une agrafe plutôt. C'est que des versets, tu vois, ici on avait « Loin de mon salut hein, », les paroles de mon rugissement, « Mon Dieu, loin de mon salut », ça commençait par ça. La partie d'après, en fait, va commencer par « Ne sois pas loin », et ce « Ne sois pas loin » va encadrer cette partie, puisqu'on aura de nouveau verset 20, « Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin hein. ». Ici, vous avez le terme de « secours », il n'y a aucun secours, « Ma force, mon secours, hâte-toi ». Donc ça, c'est vraiment très caractéristique, hein, on n'a pas trop à... Et vous voyez que ces mots-là, on ne les a pas vus auparavant. Donc en fait, ce qui est très intéressant, c'est que un écrivain biblique, il va user de sa propre rhétorique. Si vous voulez aussi lire des choses sur la poésie hébraïque, vous pouvez lire les livres de Robert Alter, voilà, qui est un Américain, et qui a pas mal travaillé cette question de la rhétorique et des psaumes, et du genre littéraire des psaumes, qui nous aide à y entrer un petit peu, parce que nous, on les chante, et on est habitué simplement à les chanter et à avoir un verset qui nous rejoint de temps en temps de manière particulière, mais on peut aussi décider de les prier, de les méditer de manière plus rapprochée, et dans cette mesure-là, cette rhétorique peut être utile. Alors là, vous voyez, c'est assez simple aussi, hein, on va avoir un verset central, hein, qui renvoie donc à l'action de Dieu, hein, à la poussière de la mort, tu me conduiras. Et de part et d'autre, hein, on va avoir une supplication, ne sois pas loin de moi car l'angoisse approche, une supplication à la fin, toi Seigneur ne sois pas loin de moi, délivre de l'épée ma vie, sauve-moi de la gueule du lion. Donc ici la supplication elle se diffracte en un rythme ternaire. Et entre-temps, hein, de part et d'autre, on va avoir, cette fois-ci, vous voyez, les assaillants du psalmiste, les assaillants du narrateur, qui sont même plus désignés de manière humaine. Vous voyez, on est dans le champ lexical de la bête sauvage, hein, les taureaux, les vaches, ou les taureaux, les vaches de Bashan, hein, ils ont ouvert sur moi leur gueule, le lion qui déchiquette et rugit. Vous avez de l'autre côté, délivre-moi donc de la griffe du chien, sauve-moi de la gueule du lion, de la corne des bisons, etc. Donc on voit bien que là, ce qui se joue, c'est que plus on s'approche de la mort, plus il y a une sorte de presque de halètement de bête poursuivie. Hein, le terme de encercler revient de part et d'autre. Donc on est vraiment, si vous voulez, dans la descente. Hein, c'est vraiment un psaume de descente dans la mort. Avec un verset qui pose des problèmes, vous savez, ce verset que nous on attribue beaucoup au Christ, évidemment, il me perce les mains et les pieds, hein, on chante ça dans la liturgie, hein, il me perce les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Alors le problème c'est quand on lit ça dans l'hébreu, c'est comme un lion, mes mains et mes pieds. Alors du coup, essayez de visualiser, on n'est pas très sûr. Alors ça peut vouloir dire comme un lion qui est en train de me déchirer les mains et les pieds. Bon, ça peut être ça. En tout cas, la Septante traduit. Hein, et là, elle traduit Oruxane. Hein, donc il me creuse les mains et les pieds. Donc on peut comprendre que. Voilà, qu'il y a quelque chose de ça. Alors peut-être, vous voyez, ça c'est très très difficile de savoir, ça fait partie de ces textes, ces versets un peu corrompus. C'est souvent, en fait, dans l'Ancien Testament, quand il y a des choses qui sont parmi les plus proches du Christ, très souvent, il y a un problème textuel. Alors, soit c'est le bon Dieu qui veut vraiment nous laisser tous libres, soit c'est les massorettes qui voulait quand même pas trop qu'on interprète ça de manière trop christologique. Et donc il est possible que le verbe kara, qui veut dire percer, karou, hein, il me perce les mains et les pieds, ait été modifié en kahari, hein, comme un lion, mes mains et mes pieds. Alors ça c'est toujours dans l'ordre des hypothèses, évidemment, si vous avez un rabbin, il ne vous dira pas ça, parce qu'il vous dira, enfin, même un rabbin aujourd'hui un peu plus... en tout cas, c'est des questions qui peuvent se poser de manière textuelle, mais en tout cas, et c'est sûr que pour eux, il y a un textus receptus qui vient des massorettes qu'on ne touche pas, qui est très, très marquant. Est-ce qu'il y a un autre exemple qui me vient en tête d'un texte très corrompu? Dans les chants du serviteur, il y a des choses comme ça, dans Isaïe. Donc, c'est vraiment des textes qui sont très, très christologiques, et donc on ne sait pas très bien si ça a pu être corrigé. Ou si c'est simplement peut-être que bon Dieu veut laisser tout le monde libre en mettant des choses un petit peu plus... Mais en tout cas, vous voyez, on a cet indice quand même que la Septante, elle traduit, quand même, il me creuse les mains et les pieds, donc est traduit par un verbe, et pas par la métaphore du lion. Donc, surtout que le lion, il est déjà là avec sa gueule et il est ici avec sa gueule. Donc on voit un petit peu moins bien ce qu'il fait là, mais bon, comme il est dans le texte hébraïque, je vous l'ai mis quand même au centre. Et puis vous avez vu hein, que donc c'est vraiment un truc qui avait des parallélismes, ils ont été dit sous mes os, je peux compter tous mes os, etc. Et donc là, on voit bien, vous voyez qu'il y a le champ lexical à la fois, donc évidemment des bêtes sauvages, et puis celui du corps du psalmiste, hein, qui cette fois-ci n'est plus un jeu. Mes os ont été dissous, mon cœur est comme la cire, il fond dans mes entrailles, ma langue est collée à mon palais, mes mains et mes pieds enfin, sont percés, je peux compter tous mes os, ils se répartissent mes vêtements et mon habit, donc le jeu retentit encore, mais vous voyez qu'il y a cette espèce de diffraction de celui qui en fait ne se dit plus que comme un corps souffrant. Et avec au centre, hein, là où il y a le... Donc la description du corps qui se défait, l'action des ennemis, et puis de nouveau ce corps qui se défait, un « tu » qui retentit. Hein, il y avait le « ne sois pas loin de moi, car l'angoisse s'approche, car il n'y a aucun secours ». Ensuite, on est vraiment dans le descriptif, le « il » au pluriel et le « moi », le « il » et le « moi », et au centre, « à la poussière de la mort, tu me conduiras ». Alors ça, c'est très impressionnant, parce que l'homme est en train de dire à Dieu, en fait, tu m'emmènes à la mort. Alors on verra un petit peu après, je vous montrerai comment notamment Paul Beauchamp l'interprète, de manière très très belle, très puissante. Mais au fond, on sent hein, que il continue de s'adresser à Dieu, mais au fond, dans une descente hein, qui est toujours plus, y a toujours moins d'issue, hein, la poussière de la mort. C'est pas très compliqué hein, quand on est dans le monde hébraïque. La poussière, c'est quoi hein? C'est l'Adama, c'est-à-dire la terre dont Adam a été tiré. Et qu'a dit Dieu après le péché à Adam hein? Remember that you're dust, and that to dust you will return. Hein, c'est ce qu'on dit tout le temps là, quand on est en Angleterre. Hein. Souviens-toi que tu es poussière, à la poussière tu retourneras. Hein, ce qu'on peut dire maintenant aussi en français, parce qu'on l'a remis dans le missel. Nouvellement traduit. Donc c'est vraiment ce retour à la poussière, on n'est pas obligé de dire maintenant toujours convertis-toi et crois à l'évangile, on peut dire aussi tu es poussière et poussière, mercredi décembre. Voilà. Donc là, vous voyez, cette partie très centrale, et elle est vraiment dans une sorte de présent, c'est comme si là on était vraiment ces gros plans sur la mort, et on est autant le reste avec une sorte de mémoire du passé, autant là on est vraiment dans ce présent de la descente. Et de manière très impressionnante, très étonnante, mais je ne le commande pas complètement pour le moment, on arrive là, « Mets-toi, ne sois pas loin, ma force à mon secours, hâte-toi, délivre-moi de la griffe du chien, délivre de l'épée ma vie, de la griffe du chien mon unique, sauve-moi de la gueule du lion et de la corne des bisons, tu m'as répondu. » Ça se termine, et là, il faut quand même qu'on accepte de dire, ben, il n'y a aucune transition, il n'y a aucune annonce, il y a un continuum et il n'y a aucune raison que ça se retourne de cette manière. Alors ça, c'est quand même très étonnant, mais c'est dans une certaine mesure, on comprend que c'est comme si cette parole continuée, vous voyez, du psalmiste qui continue de s'adresser à Dieu, elle venait nous dire, au fond, ce qu'est la figure vraiment chrétienne de l'espérance. Vous connaissez la phrase de Bernanos, hein, l'espérance, c'est le désespoir surmonté. C'est-à-dire, c'est comme s'il fallait descendre là, jusqu'à la poussière de la mort, pour que nous ayons une réponse. Mais en fait, c'est vrai. Parce que toutes les réponses qui viennent avant, pour l'humanité, ce n'est pas des réponses. C'est-à-dire que toute réponse qui nous vient d'avant la mort, ça y est, on s'en est sorti, on s'en est tiré avant. Mais la seule réponse qui importe à l'humanité, c'est qu'est-ce qui advient quand je descends vraiment dans la mort. Vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est que là, la réponse, elle advient vraiment au plus profond de là où on est descendu. Et là, on est dans l'Ancien Testament. On n'est pas encore dans le Nouveau Testament. Et comme souvent, comme toujours, la Bible ne fait aucune psychologie. La Bible ne dit pas... sauf que là, on entre dans le cri, on est dans cette espèce de halètement de la bête traquée. Mais on ne comprend pas pourquoi ça se retourne, et pourtant ça se retourne là, dans ce point où on est descendu jusqu'au plus bas. les questions.
C'est juste que je comprends pas, parce que dans la Bible de Jérusalem, il n'y a pas du tout de tu m'aurais demandé. C'est traduit par ma pauvre vie. Et du coup, sur un point aussi important, je me dis pourquoi c'est pas traduit tu m'aurais demandé.
Ma pauvre vie dans la Bible.
Marqué, sauve-moi de la gueule du lion, de la corne du taureau, ma pauvre vie. Et après, j'annoncerai ton nom à mes frères.
Ah ben non, mais il devrait y avoir, tu m'as répondu. C'est dans le texte. Et c'est dans le texte liturgique d'ailleurs que je vous ai dit. Ouais, donc ça veut dire qu'il y a peut-être une petite, un manque dans ta Bible. Alors, et donc dernière partie. Dernière partie. Donc cette fois-ci, de nouveau, mais ça arrive. Peut-être qu'il leur est passé un truc par la tête et qu'ils ont décidé que. Donc ici, dernière partie, de nouveau, elle va être structurée en deux parties. Et de nouveau, on va avoir cette dimension, cette fois-ci, d'un récit. C'est comme si la parole, qui était descendue jusqu'à la mort, jusqu'à la dislocation, cette fois-ci, elle devient parole de proclamation. Et parole de proclamation, là encore, il y a des tas de choses qui surgissent tout d'un coup, et on ne sait pas d'où ça vient. Que je fasse connaître ta renommée à mes frères. Je veux te louer, me glorifier, ma louange, mes vœux. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui caractérise la première partie, dimension de louange. Et puis, dans la deuxième partie, il y a encore de nouveau une agrafe, avec « ils loueront le Seigneur ». Et là, cette fois-ci, on va avoir cette question du repas. Donc très intéressant, parce qu'on bascule sur un repas, les pauvres mangeront, ils seront rassasiés, ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. Ils ont mangé et ils se sont prosternés, donc tous les gras de la terre. Là, c'est pour dire qu'il y a les pauvres du Seigneur et il y a les gras. Non, mais la Bible, c'est très, très concret. Et les gras de la terre, qu'est-ce qui se passe? Ils s'inclinent devant Dieu, ils sont prêts de descendre à la poussière, comme l'était autrefois le psalmiste, et aucun ne peut maintenir son être en vie. Donc ça, c'est deux traductions possibles du verset qui est là encore très compliqué. Soit moi je vis pour lui, soit aucun ne peut se maintenir en vie, sous-entendu, sans le Seigneur. C'est-à-dire rien n'échappe au Seigneur, rien n'échappe au Seigneur qui seul peut donner la vie, qui va donner la vie à ses pauvres. Pourquoi? Parce qu'il a donné la vie aux pauvres qui crient dans le psaume. C'est parce que le psaume est descendu jusqu'en bas, c'est parce que le psalmiste est descendu jusqu'au fond de la mort, qu'ensuite il est capable de faire connaître au Seigneur ce que le Seigneur est capable d'accomplir. Donc, et là, de nouveau, vous allez avoir tout ce vocabulaire de l'assemblée nombreuse, toute une assemblée, comme s'il entrait tout d'un coup dans l'assemblée liturgique, comme si on était... on va avoir tous ceux qui craignent le Seigneur, ceux qui redoutent le Seigneur, ceux qui le craignent, donc dans cette partie. Donc là, c'est vraiment... On est dans un présent qui va se tourner ensuite vers un futur avec une dimension presque, donc on appellera eschatologique en théologie, c'est-à-dire tourner vers un accomplissement final qui correspond un peu à toutes les prévisions dans le prophète Isaïe, une sorte de banquet final où Dieu va rassembler tout le monde. Mais là, on voit bien, redoutez-le, la descendance d'Israël, donc était invoquée, je vous rappelle, dans la toute première partie. Il n'a pas méprisé ni abhorré l'affliction du pauvre. Donc ça, c'est ces deux versets centraux là où à chaque fois on va qui sont marqués par un quart dans le psaume. Le premier, il est tourné vers la mémoire de ce qui s'est passé. Il n'a pas méprisé ni abhorré l'affection du pauvre que je suis, ni caché sa face. Au contraire, à son cri vers lui, il a écouté. Donc là, c'est comme si dans ce verset là il y avait une sorte de mémoire de toute la partie précédente du psaume. À ton sujet, ma louange dans l'assemblée nombreuse, mes vœux je pourrais accomplir devant ceux qui le craignent. Donc c'est vraiment très très littéral, mais ça permet de voir bien les rappels de vocabulaire. Et puis, de l'autre côté, on va avoir de nouveau cette dimension de la mémoire, mais qui est tournée vers la prosternation, vers l'adoration de Dieu. Donc on se souviendra, on se prosternera, ils se seront prosternés, il sera fait la chronique du Seigneur, on racontera sa justice. Et donc là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on bascule dans un appel, dans une proclamation du salut. C'est-à-dire que autant la mort est toujours solitaire, autant le salut ne l'est jamais. Et le salut est toujours quelque chose qui va être proclamé, qui va être annoncé, confère la résurrection. Marie arrive au tombeau, et que fait-elle ensuite? Elle court vers les apôtres, parce que la joie est dans son essence même faite pour être partagée. Donc on va entrer, vous voyez, dans cette dimension d'un peuple entier qui s'ouvre immédiatement au peuple entier. Alors, on a donc la descendance d'Israël, ceux qui craignent Dieu, donc ils sont en fait appelés hein, par celui qui est le pauvre. Et ensuite, vous voyez que dans l'autre partie, ça va être un élargissement à l'ensemble de la terre. Hein. Devant ta face hein, se prosterneront toutes les familles de nations. Tous les confins de la terre se souviendront et reviendront vers Dieu. Donc, tous les gras de la terre, c'est-à-dire même ceux qui n'écoutent pas Dieu, en fait, par une dimension inverse. Donc ça, c'est souvent aussi comme ça dans la rhétorique biblique. On va dire quelque chose en positif et on va dire l'inverse en négatif pour montrer que c'est une seule vérité qu'on est en train d'affirmer. Ça va ?
Oui.
Ouais, voilà. Et donc là, on va annoncer de nouveau un ensemble de nations, hein, car au Seigneur et la royauté, il exerce le pouvoir sur les peuples. Hein, et on va avoir à la fin hein, cette chronique, ils reviendront, ils raconteront sa justice au peuple près de naître, car il a agi. Qu'est-ce qui se passe ? C'est un peuple qui est en train de naître. Pourquoi ? Parce que le dernier mot du psaume, c'est « car Dieu a agi ». Et c'est là que c'est intéressant de revenir aux trois parties du psaume, qui en quelque sorte sont à la fois une mémoire, le présent de la mort, et puis l'annonce finale que tout le monde rejoindra le Seigneur. Je vais peut-être essayer de décaler un petit peu l'écran. Ouais, c'est un petit peu plus dedans. Vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est que tout d'un coup, quand on regarde la fin de chaque partie, la première, elle dit « Mon Dieu, c'est toi hein, ». Donc, c'est-à-dire le rapport du pauvre à celui qui peut le sauver. La deuxième partie, elle s'achève par quoi ? « Tu m'as répondu ». Parce que moi, je disais jusqu'au fond de ma misère « Mon Dieu, c'est toi ». Même dans la mort, tu m'as répondu. Et tu m'as répondu, et ce sera proclamé à tous les peuples, au peuple qui va naître, car il a agi. Et comment est-ce que disait le psalmiste au début ? Quelle était cette espèce de mémoire qui l'entretenait, même si tout semblait bloqué ? C'est en toi que nos pères espéraient, ils espéraient, et tu les délivrais. Voilà cette mémoire lancinante pour celui qui est là, et qui a l'impression que pour lui tout est bouché. C'est toi qui m'as extrait du ventre de ma mère. Tu me confiais au sein de ma mère. Sur toi, j'ai été jeté depuis les entrailles, depuis le ventre de ma mère. Mon Dieu, c'est toi. Et qu'est-ce qui vient à la fin ? C'est un peuple qui naît. Vous voyez, on comprend derrière ça comment Paul, il peut parler, il peut dire que Jésus, hein, dans l'Épître aux Hébreux, hein, pourquoi est-ce qu'il a été, il est entré dans sa passion ? Pour être le premier, enfin c'est pas saint Paul dans l'Épître aux Hébreux, c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux en l'occurrence, le premier d'une multitude de frères. Et vous voyez très bien comment, au fond, ce psaume qui est, déjà qui est une merveille poétique de construction, d'écho, de jeu, vous voyez très bien comment on l'applique au Christ. Comment, au fond, on voit cette descente solitaire dans la mort, et en même temps cette naissance d'un peuple, hein, puisque précisément l'incarnation de celui qui est né, de celui qui a été jeté contre sa mère, hein, eh bien, elle était faite pour que naisse un peuple nombreux, pour que le Christ vienne nous chercher là où tous nous sommes rassemblés, puisque un point rassemble l'humanité entière, et ce point, c'est la mort. C'est là que nous sommes tous sûrs à un moment d'aller. Enfin, peut-être pas aux vacances au même endroit, mais à la fin, les amis, on va tous passer la même porte. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu la franchir pour nous et pour l'ouvrir définitivement. Vous voyez ? Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on n'a pas, en quelque sorte, si on s'en tient juste à ce que dit le psaume et à sa structure, on n'a pas Jésus, mais nous, chrétiens, quand on le lit juste dans la matérialité du texte, on ne voit que lui. Vous voyez ? Mon Dieu, c'est toi, tu m'as répondu au cœur de la mort, car il a agi. Et Dieu qui agit, hein, c'est toujours, au fond, c'est l'action créatrice de Dieu, c'est l'action salvatrice de Dieu quand il fait sortir le peuple d'Égypte en faisant traverser la mort ou quand il fait revenir d'exil. Et évidemment, l'action suprême de Dieu, c'est la naissance d'un peuple, mais c'est identiquement le relèvement du Fils unique. Alors, du coup, maintenant, je vais simplement vous... Voilà, on va simplement lire... comment Marc écrit son évangile à partir de là. C'était la troisième heure lorsqu'on le crucifia. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots, le roi des Juifs. Avec lui, il crucifie deux bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les patients l'injuriaient en hochant la tête, hein, citation du psaume. Il disait « Et toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes en disant entre eux « Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. » Alors là, chez Matthieu, il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Là encore, citation et construction du récit à partir du psaume 21. « Qu'il descende maintenant de la croix, le Christ, le roi d'Israël, alors nous verrons et nous croirons. Même ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient. Quand arriva la sixième heure, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Et à la neuvième heure, Jésus cria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lema sabachthani », ce qui se traduit, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient, « Voilà qu'il appelle le prophète Élie. » L'un d'eux courut tremper une éponge dans une boisson vinaigrée, autre référence à un autre psaume, il mit au bout d'un roseau et lui donnait à boire en disant, « Attendez, nous verrons bien si Élie vient le descendre de là. » Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. Le rideau du sanctuaire se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, déclara vraiment cet homme était fils de Dieu. Vous voyez que chez Marc et chez Matthieu, donc les deux premiers évangélistes, le cri du Christ va être formulé comme le cri du psaume. Alors, est-ce qu'on est sûr et certain que Jésus a prié le psaume 21 tel quel, ou est-ce que on a ce grand cri de Jésus inarticulé, etc. Donc ça, c'est très difficile de trancher. Moi, j'ai pas des raisons de penser qu'il n'ait pas dit cela, surtout quand on rapporte des propos en araméen. C'est-à-dire quand on prend la peine de redire des propos dans la langue originelle, même dans l'évangile. Ça, c'est quand même un indice qu'on n'est pas en train simplement de théologiser quelque chose qui serait advenu au Christ. Et donc il y a quelque chose, c'est comme si, en fait, en mourant, Jésus nous donne une sorte de clé, vous voyez, de sa passion. Alors ce qui a fait dire à certains exégètes que Jésus, là, quand il crie ça, bon, alors, vous allez avoir plusieurs manières de le prendre. Il y a des gens qui ont dit, ben, Jésus entre jusque dans la désespérance humaine. Donc il y a des tas de réflexions là-dessus, hein, notamment d'un Charles Péguy, hein, sa Jeanne d'Arc, d'abord, sa Jeanne d'Arc tout à fait non chrétienne, hein, qu'il écrit alors qu'il n'est absolument pas devenu chrétien, et qu'il va réécrire dans le mystère de la charité de Jeanne d'Arc, hein, tout le début du dialogue entre Jeanne et Oviette, hein, porte sur le cri du Christ, qui crie, qui hurle sur la croix. Pourquoi ? Parce qu'il ne les sauvait pas, parce qu'il ne sauvait pas tout le monde, parce que peut-être Judas était perdu. Une espèce de grand cri interprété comme du désespoir. Ce qu'on peut voir à travers ça, quand même, c'est que Jésus donne en fait tout un contenu du psaume, tout un continuum, où on sent beaucoup plus, hein, que le « lema azaftani »,« lema sabachthani », m'as-tu abandonné, c'est-à-dire vers où suis-je livré, c'est en fait jusqu'à quelle pointe de l'abandon suis-je en train d'aller au nom de tous. Et donc ça traduit pas nécessairement un désespoir évidemment théologal, ça je pense que c'est absolument intenable pour le Christ. Il demeure dans cette fine pointe de l'espérance en son Père, même si on pourrait dire que au niveau des puissances sensibles, certainement il atteint le bout de la déréliction de tout homme. Je rappelle quand même que je crois que c'est Cicéron qui, dans un de ses écrits, enfin c'était cité par l'exégète, qui dit Cicéron disait, faudrait même pas vraiment trop parler de la crucifixion à des citoyens romains, il devrait même pas trop en entendre parler, tellement c'est horrible. On ne mesure plus, parce que nous évidemment on a des crucifix partout sur nos murs, mais l'ignominie, l'horreur que cela pouvait représenter, c'était une mort qui durait vraiment des heures. Ce qui a beaucoup frappé les contemporains de Jésus, c'est raconté dans les évangiles, c'est qu'il est mort très vite. Pourquoi aussi ? Parce qu'il a la maîtrise de rendre l'esprit comme il le fait sur la croix. Hein ? Donc de mourir avant les deux autres à qui on va briser les jambes pour abréger leur souffrance, parce que je rappelle que la croix, c'est une mort par asphyxie. C'est pas une mort par perte de sang. On perd très peu de sang, pas à des endroits absolument névralgiques. En revanche, il faut se soulever à chaque fois pour respirer, et se soulever est une douleur atroce. C'est vraiment un supplice monstrueux. Et donc Jésus est quand même là-dedans, c'est quand même là qui porte notre dérédiction jusqu'au bout. Et donc, si vous voulez, ça a été interprété, du coup, ce verset par les exégètes, soit comme l'annonce d'une résurrection, puisque le psaume se renverse en louange. Donc effectivement, hein, il y a cette espèce de contenu, mais le contenu de la louange qui advient n'annule pas pour autant, évidemment, toute la descente qui est décrite dans le psaume lui-même. Donc là, je vous ai mis un autre aspect, parce que du coup, tout le monde s'est dit, mais comment, pourquoi Jésus a poussé ce cri? Enfin, c'est tellement abyssal. Mais Dieu s'incarne, donc c'est déjà très abyssal. Dieu, le Fils unique, dit à son Père, tu m'as abandonné. Alors, on va avoir, donc, vous voyez, lecture 1, bah, en fait, c'est un cri d'abandon qui annonce la résurrection, qui contient, en fait, toute la passion. Donc, toutes ces lectures ne sont pas opposées les unes aux autres. Mais je vous donne un peu la richesse d'interprétation qui a pu suivre un psaume. Là, vous avez ce texte magnifique d'Augustin, hein, qui est un des grands, grands, grands interprètes des psaumes, alors qu'il les interprète verset après verset. Hein. Donc, quand on lit une homélie d'Augustin, son homélie, c'est comme si moi, je prenais l'évangile et puis je commençais à vous faire un truc, et après chaque verset, je commence à développer les homélies d'Augustin. Je pense que ce n'était pas dans le 7 minutes du pape François. Et on était plutôt dans le 55 minutes, une bonne heure. Mais bon, on avait que ça à faire. Hein. Il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas les... C'était le drame. Voilà. Dieu, mon Dieu, regarde-moi, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce premier verset, nous l'avons entendu à la croix quand le Seigneur a dit « Eli, Eli », c'est-à-dire « mon Dieu, lama sabachthani », c'est-à-dire « pourquoi m'as-tu abandonné ?» Là, Augustin, vous voyez, il traduit aussi pour son peuple. Ça, c'est un psaume qu'il a, un sermon qu'il a vraiment prononcé en 407. On sait que c'est vraiment au cœur de la controverse donatiste. On est bien capable de dater ce psaume, et on sait que c'est un psaume prononcé, puisque parfois il avait écrit des choses qui ressemblent une homélie prononcée, parce que parfois Augustin a écrit un certain nombre de textes qu'il écrivait pour d'autres et qu'il n'avait pas prononcé lui-même, donc étaient des textes d'abord écrits. Ça, c'est un texte qui a été sténographié, en gros, par tous ceux qui écoutaient l'évêque et qui prenaient des notes à toute vitesse pendant qu'il parlait. L'évangéliste a traduit cette parole en précisant que le Seigneur avait dit en hébreu « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Bon, comme ça, c'est bien clair, c'est didactique, là. « Qu'a voulu dire le Seigneur ? Car Dieu ne l'avait pas abandonné, puisqu'il était lui-même Dieu. Oui, Dieu est fils de Dieu. Oui, Dieu est verbe de Dieu. Écoute ce que dit d'emblée l'évangéliste qui faisait rejaillir ce qu'il avait bu à la source du cœur du Seigneur. Examinons si le Christ est Dieu. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Ce même Verbe qui était Dieu s'est fait chair. » Donc il commence par dire, non, Dieu ne l'a pas abandonné puisqu'il est Dieu. Donc il dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais en fait, il n'est pas abandonné puisqu'il est le Verbe de Dieu, donc il n'est pas abandonnable puisqu'il est le Fils. Mais ce même Verbe qui était Dieu s'est fait chair et il a habité parmi nous. Et Dieu le Verbe s'étant fait chair pendait à la croix et disait, mon Dieu, regarde-moi. Pourquoi m'as-tu abandonné? Le regarde-moi, c'est proskesme, c'est dans la traduction de la Septante, c'est un truc qui est rajouté par rapport au texte hébraïque. Pourquoi dit-il cela? Sinon parce que nous étions là. Sinon parce que l'Église est le corps du Christ. Pourquoi a-t-il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Sinon pour nous rendre en quelque sorte attentifs et nous dire, ce psaume, c'est à mon sujet qu'il est écrit. C'est-à-dire que vous voyez là, de ce point de vue-là, on a vraiment... un seul médiateur, comme dit la première lettre de saint Paul à Timothée, il y a un seul médiateur, le Christ homme. C'est dans son humanité que Jésus est médiateur, entre nous et Dieu. Parce qu'en fait, il vient dans son humanité pour être la tête d'un corps. Jésus peut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il vient le dire dans son humanité. En notre nom. Alors ça va être le thème d'Augustin, il va expliciter après. Qu'est-ce donc, sinon qu'il portait notre faiblesse et disait cela au nom de ceux qui, tout en appartenant à son corps, craignent encore la mort? Telle était l'origine de cette voix, c'était la voix de ses membres et non celle de la tête. Enfin, donc Augustin va avoir une pensée en permanence très paulinienne de la tête et du corps à l'intérieur de l'Église, et il va dire au fond, il y a des moments où Jésus dit des choses parce qu'en fait il parle en notre nom. Alors vous voyez, c'est important d'avoir la lecture précédente que je vous ai dite, sur laquelle on va revenir, c'est que quand même, certainement, de sa propre humanité, Jésus a expérimenté quand même ce fait d'être au bout du bout de ce qu'est la vie. Mais comme il le fait dans sa sainte humanité, et que ce qui définit l'homme à partir du moment où Jésus est ressuscité, ce n'est plus que tous les hommes s'arrêtent dans la mort, mais c'est que, puisqu'un est ressuscité, ce qui définit l'humanité, c'est très simple, c'est que l'humanité, elle est faite pour la vie éternelle. Jésus vient radicalement renouveler la définition même de l'humanité. Nous sommes des êtres faits pour la vie, puisqu'un l'un de nous est déjà vivant, deux d'entre nous d'ailleurs sont déjà vivants, corps et âme auprès de Dieu, avec la Vierge Marie. Et donc, il vient s'exprimer à la fois pour lui-même, mais évidemment, ce lui-même inclut ses membres. Nous, on n'est pas forcément obligé d'exclure les membres par rapport à la tête, même si Augustin, il va dire, il parle au nom de ses membres et pas au nom de la tête. Ça va ? Et j'aime beaucoup, après ce que dit Augustin, un peu plus loin encore dans son Méni, « À tous, je le dis, pour le chrétien, la tribulation est une mise à l'épreuve s'il n'a pas abandonné son Dieu. » C'est-à-dire, au fond, ça vient nous dire, quand le Christ dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» comme il l'adresse au Père, en fait, eh bien, il est précisément dans ce mouvement, en fait, où lui, abandonné dans sa sainte humanité, n'abandonne pas son Dieu, et donc ne peut pas être arrêté par ça, par la main. Et donc, c'est là aussi que nous sommes pris, en fait, dans ce jeu, dans cette parole de Jésus. Et puis, avant-dernière interprétation, je suis désolé, je suis en train d'exposer le timing, mais sinon, ça ne serait pas long, vous voyez. Ouais, vous m'accordez 5 minutes, quoi. S'il vous plaît. Là, c'est un peu balèze, mais c'est vraiment bien, parce que ça permet de comprendre un petit peu aussi comment ça va être médité théologiquement. Donc là, je lis et je commence. « Celui qui agit véritablement au calvaire est donc Dieu, et l'instrument de son action est le péché. Mais celui qui était dans le monde, la parole de Dieu, est muet. Le prophète pouvait encore décrire des expériences annonciatrices. Mes reins sont parcourus de frissons, je suis la proie des douleurs, comme les douleurs de celles qui enfantent. » Entre parenthèses, c'est Isaïe et le psaume 21, là, ont des échos. « Je suis trop bouleversé pour entendre, trop effrayé pour voir, mon cœur s'égare, le tremblement me terrifie. Le crépuscule auquel j'aspirais devient ma terreur. » Le crucifié, lui, est au-delà de telles paroles. Chez Marc et Matthieu, il pousse seulement l'appel de la déréliction et expire avec un grand cri. Les autres paroles prononcées sur la croix pourraient pour la plupart être des interprétations de la situation, telles que la méditation de l'Église le découvre à la lumière de l'amour. Alors qu'est-ce qui est en train d'être dit là? Au fond, Balthazar, il dit, mais au fond, même s'il y a juste un cri du Christ, même s'il y a juste cette parole inarticulée qui est la dernière chose avant « tu me mènes à la poussière de la mort », Ça contient pour la méditation de l'Église la possibilité ensuite d'attribuer toutes les paroles des psaumes au Christ. Parce qu'au fond, on comprend que ces paroles, elles viennent juste expliciter ce qui se joue dans le Christ. Alors, pour être vraiment très honnête avec ce que fait Balthazar, plus loin dans le même livre, il dit, mais en fait, on peut penser de manière tout à fait raisonnable que le « j'ai soif » peut avoir une base, que le « entre tes mains, je remets mon esprit » peut avoir une autre base scripturaire intéressante, ou en tout cas le « j'ai soif » très clairement, parce que sinon on ne comprend pas pourquoi on lui donne à un moment à boire une boisson vinaigrée. Donc il y a un certain nombre des paroles, des sept paroles du Christ, elles vont s'y rattacher, elles vont se rattacher à ce cri initial de manière diverse, mais comme on pourrait dire que les deux paroles peut-être les plus fiables, c'est le « Lema sabachthani »,« Pourquoi m'as-tu abandonné ?» et le « J'ai soif ». Et alors là, Balthazar il va un peu plus loin. On prendra comme fondement de tout le désintéressement des personnes divines en tant que pure relation dans la vie intradivine d'amour. Ça veut dire quoi? Le Père, il se donne totalement pour le Fils, il est dans un désintéressement d'amour tel que le Père, en engendrant l'amour, finalement, engendre le Fils, qui lui-même se rend totalement, en s'oubliant totalement dans l'amour qu'il rend, et les deux personnes sont tellement dépossédées elles-mêmes de l'amour qu'elles se donnent, que l'amour lui-même est une personne en Dieu. Voilà, bon, en gros, c'est une version pour essayer de parler de la Trinité. Ce désintéressement fonde une première forme de kénose qui se réalise dans la création. C'est-à-dire, Dieu est tellement amour, il est tellement gratuit, qu'il crée l'homme. Et à partir du moment où il crée l'homme, il se lie à une autre liberté. Vous voyez, c'est ce que Peggy dira dans le Porche du mystère de la deuxième vertu. Quel mauvais sort s'est fait Dieu de devoir espérer désormais en l'homme, espérer que l'homme ne se perde pas. Donc, une première forme de kénose qui se réalise dans la création, surtout celle de l'homme libre, puisque le Créateur cède ici, pour ainsi dire, une part de sa liberté à la créature, mais ne peut finalement risquer cette aventure qu'en vertu de la prévision et de l'acceptation de la kénose seconde et proprement dite, celle de la croix, dans laquelle le Créateur rejoint et dépasse les conséquences les plus extrêmes de la liberté créée. C'est-à-dire qu'au fond, Dieu il peut nous créer parce qu'il est prêt à venir nous chercher, même si on pêche. Parce qu'il est prêt à la kénose absolue, il peut déjà mettre quelque chose de lui dans la création. Par là, la kénose, en tant qu'abandon de la forme de Dieu, ça c'est l'épître aux Philippiens, devient sans doute l'acte distinctif de l'amour du Fils qui fait passer sa génération et donc sa dépendance du Père dans la forme expressive de l'obéissance créée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se reçoit éternellement du Père, ça c'est en Dieu, comme Verbe éternel. Ben, quand il est incarné, ça va prendre la forme de l'obéissance absolue jusqu'à être conduit à la poussière de l'amour. Voilà, jusqu'à être celui qui est dans les cornes des buffles. Tu m'as répondu. Pourtant, dans cet acte, toute la Trinité est engagée, le Père étant celui qui envoie le Fils et l'abandonne sur la croix, l'Esprit, celui qui n'unifie plus les deux personnes, que sous les formes, la forme de la séparation. C'est-à-dire qu'au fond, Balthazar va voir dans ce cri, le bout du bout, si vous... Non mais c'est très beau, en fait, c'est le bout du bout du vis-à-vis du Père et du Fils. C'est-à-dire, en fait, le Fils est tellement donné au Père dans l'obéissance qu'en fait, il peut être dans l'extrême distance pour aller chercher tous ceux qui sont loin, et pourtant s'adresser à lui pour qu'ensuite tout puisse être repris. Et ce qui fait que le Fils ne pourra jamais être séparé du Père, c'est qu'il est uni à lui dans l'Esprit. Et donc là, le « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Vous voyez, devient... Et je termine. Parce que sinon... Ah oui, non, non, ça je passe, c'est pas grave. C'est très beau, mais tant pis. Voilà, parce que je pouvais pas ne pas terminer par une phrase de Peggy, quand même. Et donc là, c'est justement dans la Jeanne d'Arc, enfin, dans le mystère de Jeanne d'Arc. « Madame Gervaise, je vous le demande, qui donc faut-il sauver? Comment faut-il sauver? En imitant Jésus, en écoutant Jésus. Quel sera donc le prix de tout un peuple d'âmes? Quel sera donc le prix d'une infinité d'âmes ?» Ça, c'est le dialogue qu'elles ont, justement, quand elles méditent ce cri du Christ. Et c'est très intéressant, parce qu'on voit que Peggy, il a très bien compris de quoi il s'agissait dans le psaume 21, en tout cas dans le cri du Christ. Il s'agit de sauver. Il s'agit de sauver comment? Mais comme le Christ... Et les évangélistes ont très bien compris ce que faisait le Christ, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont mis tout le psaume 21 dans quelques versets pour comprendre que tout se jouait là. Et de quoi s'agit-il? Il s'agit de tout un peuple d'âmes, il s'agit d'une infinité d'âmes, il s'agit du peuple qui va naître. Et donc ça, c'est beau, parce qu'on est dans le temps de la nativité, et dans le temps de ce peuple qui est né, voilà, du don du Christ, qui est né parmi nous, pour mourir pour nous faire naître à la vie de Dieu. Celui qui dit, confesse que Jésus est le Christ, est né de Dieu, pour citer quelqu'un dans une homélie, il n'y a pas très longtemps, si vous l'avez un peu écouté. Amen. Voilà. Comme j'avais un peu le truc dans la tête, sinon j'ai fait l'homélie dessus aussi. Sans... Voilà, bon bref. Si vous avez des questions... Quand même. Je voulais ça juste parce que c'est trop beau. C'est trop beau. Voilà, ça c'est très beau. Voyez. Pourquoi est-ce qu'il dit « Tu me mènes à la poussière de la mort. Qui arrachera sinon celui qui enfonce? Qui guérira selon celui qui frappe? Chasseurs bestiaux et chiens humains rejoignent l'homme pour sa mort et Dieu rejoint l'homme au même moment. Tu me mènes. Dieu domine la mort. » Parce qu'il ne peut en aucune manière et absolument pas être impliqué dans une seule de ses causes. Dieu ne peut mener à la mort que comme sauveur. Ça, c'est hyper puissant. Donc, vous irez méditer ça en lisant Psaume Nuit et Jour. Mais Beauchamp, c'est vraiment un des plus grands. Voilà. Pour lire des plus. Tristan.
Alors, désolé, ma question, c'est pas vraiment sur ce sujet-là.
Ok, ok.
Mais c'est à propos du problème. Textuel, là,
ouais.
Comme le lion me perce, voilà, les pieds.
Ouais.
Parce que, en fait, j'ai l'impression que là, c'est vraiment un des exemples où on voit que la Septante est vraiment beaucoup plus proche, en fait, de ce que de la façon dont nous, chrétiens, on lit le Saint-Testament,
Et pourtant, en l'occurrence, à la traduction de la Septante, il y a des bonnes traductions, hein, c'est-à-dire que la traduction du Pentateuque par les Septantes est de bonne qualité. Autant on considère quand même, dans l'ensemble, que la traduction des psaumes, qui n'est pas techniquement par les Septantes, parce qu'en fait on appelle ça la Septante, mais en fait il y a plusieurs périodes de traduction pour différents textes, bref, la Septante, ça porte plus spécifiquement sur le Pentateuque. Mais oui, ça va... Et si vous voulez, c'est ça qui est étonnant, c'est que qui a traduit la Septante? Qui a traduit en grec? Les Juifs, pour la ville d'Alexandrie, qui était une ville très cosmopolite, où le judaïsme parlait grec. Et aujourd'hui, dans les catastrophes que l'on fait pour Tisha B'Av, hein, donc le moment où on fait où on fait mémoire, donc ils jeûnent ce jour-là. Moi, je faisais un ulpan d'hébreu à l'université de Jérusalem l'été, et ils étaient en train de fêter Tisha B'Av, donc tout le monde jeûne, on fête toutes les catastrophes qui sont arrivées au peuple. Enfin, on fait mémoire de toutes les catastrophes qui sont arrivées au peuple d'Israël. Donc il y a la Shoah, il y a la destruction du temple, et il y a la traduction de la Septante. Aujourd'hui, on en fait mémoire comme une catastrophe, en fait, parce que, alors évidemment, maintenant, dans notre rapport au judaïsme qui a beaucoup évolué au fil des siècles, on est dans d'autres questions, parce qu'on voit bien désormais qu'en fait, la Septante renvoie à des textes hébraïques plus anciens. Donc, en fait, tout le monde se détend maintenant, parce qu'on n'est plus dans ce moment de séparation, d'hostilité mutuelle. Donc, heureusement, les choses. Mais au fond. On a beaucoup puisé dans la Septante, mais pas que. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont plus intéressantes dans le texte hébraïque. Mon professeur de Nouveau Testament, il disait, comment est-ce qu'on fait pour écrire le Nouveau Testament? Qu'est-ce qu'on prend dans l'Ancien Testament? On prend ce qui nous arrange. Parce qu'en fait, comment est-ce qu'on écrit l'Ancien Testament? On l'écrit pas à partir de le Nouveau Testament. On l'écrit pas à partir de telle ou telle version textuelle. On l'écrit à partir d'un fait. Jésus est ressuscité. Et donc après, on va chercher dans toutes les versions ce qui va le plus dans notre sens, ce qui fait que parfois dans certains trucs qui sont cités dans l'évangile, on se dit bah, c'est marrant parce que on a l'impression qu'il mixe un verset de Malachie avec un morceau de l'Exode. Et Matthieu fait ça tout le temps. Matthieu, il rebidouille des versets, il dit comme le dit l'Écriture. Et puis, c'est marrant parce qu'en fait, il faut 3-4 versets pour s'y retrouver. Vous voyez. Donc oui, il y a quelque chose de. Enfin, en tout cas, disons que la Septante, elle a été. Les chrétiens l'ont prise en main, quoi. Et le Nouveau Testament est écrit dans ce globiche qui est la koiné, quoi, qui est ce grec de l'époque, pas d'extrême qualité, etc. Et donc du coup, c'est là qu'il y a un petit effet d'autonomisation. D'ailleurs, les plus anciens manuscrits qu'on conserve en grec de la Bible, c'est des manuscrits du 5e siècle après Jésus-Christ, donc ils sont vraiment très anciens. Les plus anciens manuscrits hébreux sont seulement du 9e. C'est-à-dire qu'il y a eu moins de... aussi parce que le peuple juif aurait quand même pris plein la figure, il faut bien reconnaître, à partir d'un certain moment, c'était peut-être plus difficile pour eux d'avoir cette espèce de mémoire textuelle des choses, et donc, avec aussi les révisions des Massorètes, c'est vrai qu'il y a, dans un certain nombre de cas, aujourd'hui, il y a des exégètes qui sont capables de dire, là, dans ce truc-là, peut-être qu'on a revocalisé ça, parce que ça n'arrangeait pas une lecture purement juive. Donc on sait qu'il y a des points de frottement. Mais aujourd'hui, en tout cas, ce qui est très intéressant, je vous dis ça là, comme ça, mais mon but, c'est pas tellement de vous dire, oh, regardez, les juifs lisent mal la Bible. Enfin, aujourd'hui, de plus en plus, on va lire les traditions juives, parce qu'en fait, les traditions juives, moi, quand je les lis, à chaque fois, je me dis, mais c'est incroyable, en fait, ils ne font que me parler de Jésus. Dans le Targum, par exemple, de la Genèse, où on parle de la ligature d'Isaac, hein, parce que les juifs ne parlent pas du sacrifice d'Abraham, mais de Isaac qui a simplement été lié, puisqu'il n'a pas été sacrifié, et ben, ils font tout un truc numérique pour se dire, ah ben oui, mais alors quand est-ce que c'est la dernière fois qu'on a parlé de l'âge d'Abraham? Ok, bon, donc ça veut dire que Isaac avait 38 ans au moment de sa ligature. Et donc ça veut dire qu'en fait, Isaac, quand il monte pour être lié par le sacrifice, il est d'accord avec son père Abraham pour être offert à lui. Mais quand on pense au mystère trinitaire, où le père donne son fils, mais où le fils, en fait, entre dans la volonté du père, quand on pense en plus, parce que moi je fais partie des tenants de Jésus mort à 38 ans, non, mais il y a des trucs qui sont quand même très impressionnants. Très impressionnants dans les connivences. Là, j'ai travaillé un tout petit peu sur la question des mages et des conjonctures astrales. Il y en a une en moins 7, figurez-vous. Donc, moins 7, dans ces cas-là, il faudrait qu'il soit mort le 7 avril 30. Bon, 37, 38. Non, enfin bon, peu importe. Mais en tout cas, pour dire, par rapport à cette question textuelle, voilà, oui, il y a certainement des... Et donc, oui, la Septante est quand même une version qui a un certain poids, mais qui n'est pas la seule.
Parce qu'il y a aussi une question d'inspiration. Quel est le texte inspiré? Si c'est le texte original...
Ben, là, de ce point de vue-là, il y a une certaine quand même primauté de ce qu'on va appeler, de ce que tenait Jérôme, c'est-à-dire la Veritas Hebraica, c'est-à-dire d'un texte originel, voilà. Mais aujourd'hui... Moi, j'ai tendance à dire qu'on est assez libre, en fait. Parce qu'on n'est pas une religion du livre. Ça, il faut se sortir de l'idée que nous mettent les musulmans dans la tête, qu'on serait une religion du livre. On est la religion d'une personne. Cette personne, c'est Jésus-Christ. Et parce qu'en fait, au départ, ce qui précède l'écriture même de l'Ancien Testament, c'est un peuple qui porte ça. Et qui sans cesse va méditer. Et les juifs eux-mêmes, en fait, ils ont toujours eu une tradition orale autour. Donc on n'est pas les gens d'une sorte de texte parfait. En fait, à mes yeux, je peux travailler aisément, au jour le jour, avec trois versions de l'Ancien Testament. L'hébreu, parce que c'est intéressant, même si je suis très mauvais, mais c'est pas grave, j'essaye avec le misérable niveau que j'avais atteint au séminaire. Le grec, bon ça, ça va, je m'en tire. Et puis le latin, parce qu'en fait, le latin, je rappelle que la version de la Vulgate, on a toujours considéré qu'il y avait une inspiration dans la traduction de Jérôme. Alors depuis, on a fait la néo-Vulgate, ce qui me paraît presque incompréhensible, qu'on a voulu corriger des trucs. Moi, j'aime bien la Vulgate-Vulgate, quoi. Mais on sait en plus que dans les textes que Jérôme traduit dans la Vulgate, il a accès à des originaux hébraïques qu'on n'a plus aujourd'hui et qui n'ont pas été traduits en grec. Donc en fait, du point de vue de la critique textuelle, on fait ce qui nous arrange. Non, mais en fait, on va chercher dans les textes. En fait, non mais pour le dire un peu de manière un peu moins provocante, en fait, il y a toujours des porteurs des textes. La validité des textes, en fait, la validité de la foi, elle est que l'écriture est lue en église. C'est pas que le texte de lui-même, il dit tout d'un coup. Il y a toujours eu les gens pour pouvoir interpréter. Quand l'église commence, il n'y a pas de Nouveau Testament, je vous rappelle. Le Nouveau Testament, il est écrit parce que les apôtres commencent à mourir. Mais au départ, on a une certitude, la résurrection de Jésus fait relire tout l'Ancien Testament de manière nouvelle. L'Ancien Testament nous est un testament nouveau par la nouveauté de l'intelligence. Je crois que c'est Origène qui dit ça. L'Ancien Testament, c'est l'Ancien Testament qui nous est un testament nouveau. Donc le Nouveau Testament, ce n'est pas le testament qui vient remplacer l'Ancien. C'est l'ouverture de l'Ancien au Christ. En fait, le Nouveau Testament, c'est quoi les évangiles? C'est quoi? C'est j'écris le portrait du Christ à partir des couleurs que je prends dans l'Ancien Testament, ou des motifs, si vous voulez, pour dire, regardez. En fait, c'est pour ça que Saint Jérôme dit, ignorer l'Écriture, c'est ignorer le Christ. Si vous ne lisez pas votre Ancien Testament, bah, votre Nouveau Testament, il ne parle pas du tout de la même manière. Si vous voulez vous en persuader, vous allez lire Livre de Samuel et Récit de Résurrection du Père Philippe Lefebvre, dominicain, archicube, est devenu architala, enfin est devenu tala pendant son passage à l'école, hein, parce qu'il a travaillé sur la traduction de la Septante avec Marguerite Arles, et il est devenu catholique à cette occasion-là. Et ce bouquin, Livre de Samuel et Résurrection, ça vous fait comprendre ce que ça peut être que l'Esprit Saint qui agit à travers les rédacteurs bibliques. Mathieu.
Merci.
Oui.
Dans le verset 21,
oui.
La traduction de notre ami, de la griffe, enfin,
ah oui.
De la griffe du chien,
mounique. Oui, alors. Je pense que c'est la seule vie que j'ai, quoi, en l'occurrence. C'est pas mon unique au sens l'unique engendré ou. Il y a une espèce. En fait, alors là aussi, c'est parce que les psaumes fonctionnent souvent. Vous voyez, c'est pour ça que je vous ai mis des petites barres à partout. Un des éléments aussi de la rhétorique dans les psaumes, ça va être de fonctionner avec des binômes à chaque fois. Voilà, donc avec à chaque fois quelque chose qui va dire donc ne sois pas loin, ma force, mon secours, hâte-toi, délivre de l'épée ma vie, de la griffe du chien, sauve-moi de la gueule du lion, de la corne des bisons. Puis alors là, tu m'as répondu, intervient vraiment comme une forme de rupture. Encore des questions pratiques ou on clôt? Voilà, pendant que vous vous relevez, je vous laisse lire aussi tranquillement cette dernière. Parce que c'est hyper puissant. Allez.
Je ferme. Merci. Avec joie.